Chapitre 24. Le vent arrachait la neige des rochers qui surplombaient la piste et la projetait avec une violence inouïe sur la toile de la remorque. L'impact résonnait chaque fois comme un coup de tonnerre qui ébranlait la structure métallique et empêchait Solman de dormir. De toute façon, même si la nuit avait été paisible, il n'aurait pas trouvé le sommeil. Il s'était aménagé une couchette relativement confortable avec le vieux matelas, la paire de draps et les deux couvertures de laine que lui avait déniché Jack. Tous les soirs, après le dîner partagé avec les chauffeurs du camion de tête, avec le seul Moram depuis quelques jours, il lui fallait ranger les rouleaux de tissu et les divers ustensiles chamboulés par les heures de trajet sur la piste caoteuse, puis retendre les cordes de la bâche et combler les interstices à l'aide de bouchons d'étoffe. Comme la consigne avait été transmise d'économiser le gaz, il évitait d'utiliser la lampe à pied prêtée par Moram et se contentait de la flamme d'une bougie de cire régulièrement soufflée par les courants d'air. Il lui arrivait de regretter la chaleur de la voiture et du corps de Raïma. La séparation occultait les aspects plus déplaisants de la guérisseuse. Sa transformation physique d'abord. La présence encombrante de ces excroissances qui lui poussaient sur le corps comme des branches folles. Son intransigeance de femme condamnée ensuite, qui exigeait un engagement total, étouffant, un extrémisme passionnel destructeur, proche finalement de celui des prêtres Bakou. Il ne regrettait pas la tyrannie de Raïma, mais sa virtuosité d'amante, le balai ensorcelant de sa bouche, de son souffle et de ses mains sur son visage, sur son torse, sur son sexe. Il mourait d'envie d'être regardé, embrassé, touché, léché, bercé, comme un enfant couvé par la tendresse de sa mère. Ce n'était pas seulement une faim charnelle, un cri du corps, mais un besoin vital de rouler dans des vagues de touffeur humaine, d'imbiber son esprit et son cœur d'un liquide nourricier. La nostalgie du ventre originel, sans doute. Il s'était examiné dans un rétroviseur au milieu du jour, à l'occasion d'une halte de la caravane sur les contreforts du massif central. Son image l'avait surpris. Le duvet noirâtre qui lui ombrait la lèvre supérieure et les joues s'était mué en un embryon de barbe qui bouffait dans les creux de son visage comme les buissons dans les failles. Il avait tiré sur une mèche tire-bouchonnée de ses cheveux et s'était rendu compte qu'elle lui arrivait à mi-poitrine. De ses doigts écartés, il avait essayé de discipliner le sombre écheveau qui doublait le volume de sa tête, mais la difficulté de la tâche l'avait rapidement conduit à renoncer. Il lui avait également semblé, peut-être n'était-ce qu'un effet de contraste avec sa peau hâlée, que ses yeux s'étaient encore éclaircis, que la démarcation se faisait de moins en moins nette entre le bleu pâle des iris et le blanc. Il était entré dans l'âge d'homme sans s'en apercevoir, comme il tenait sans le vouloir l'avenir du peuple aquariote dans ses mains, en clandestin de l'existence. En donneur écartelé entre son patrimoine humain et l'appel d'une autre réalité, d'un autre monde. Une nouvelle projection de neige sur la bâche le fit sursauter. Il transpirait sous sa tunique, malgré les haleines glacées qui s'insinuaient dans les failles agrandies par les coups de boutoir du vent. Des bruits résonnaient dans le lointain, des claquements de portes, des éclats de voix, des pas précipités. Sans doute des hommes et des femmes pris d'une envie subite au cours de la nuit. Non seulement il n'avait pas d'autre choix que d'affronter les morsures du froid pour la satisfaire, mais il n'avait pas la possibilité de se laver ensuite, l'eau gelant dans les seaux hygiéniques dont étaient équipées les voitures. Solman se demanda pour la millième fois si sa clairvoyance, sa fichue clairvoyance, gouvernait encore son obstination à entraîner le peuple aquariote plus au nord, là où les moindres tâches quotidiennes se transformeraient en épreuves redoutables, potentiellement mortelles. Après l'attaque du relais de Galice, il lui avait semblé évident que l'hiver constituerait le plus sûr des abris. Mais il ne percevait rien d'autre que ses angoisses et ses doutes depuis qu'ils avaient quitté le marais du littoral. Et il s'agrippait à sa décision comme à une corde tendue sur le vide. Il avait secrètement espéré que l'arrivée de Khadija donnerait un sens à cette errance aveugle, absurde. Mais si leur première rencontre dans le camion de Tchak l'avait renforcé dans cette conviction, les jours suivants ne lui avaient apporté que désillusion, déception, désarroi. Et les aquariotes qui l'avaient béni de les avoir tirés du relais de Galice l'accuseraient, l'accusaient déjà, de les avoir attirés dans un nouveau piège. Il maudit son entêtement à vouloir sauver les derniers hommes, ces êtres dans lesquels il ne se reconnaissait pas davantage que les prêtres Bakou. Il effleura la crosse du pistolet passé dans sa ceinture et imagina la bouche du canon posée sur son cœur. Il lui suffirait d'un geste minuscule, la pression de son index sur la détente, pour s'offrir le baiser de paix. Les êtres humains avaient tant de fois transgressé la frontière entre la vie et la mort qu'elle avait perdu son caractère sacré, qu'elle ne signifiait plus rien. Il n'avait pas appris à respecter la vie sous toutes ses formes. Et lui, Solman le boiteux, n'était que le dernier de la lignée de tous les donneurs qui s'étaient succédés au fil des siècles, de tous ces clairvoyants massacrés par ceux-là même qu'ils avaient essayé de guider vers des horizons nouveaux. Le maillon arraché, isolé, d'une longue chaîne d'échecs qui s'était soldée par la Troisième Guerre mondiale, la plus meurtrière, la plus radicale, la plus destructrice de toute l'histoire humaine. Il y avait une fatalité humaine, une faute originelle qui condamnait les hommes à se haïr, à se combattre, à diviser les uns en bourreaux et les autres en victimes, comme si la cruauté ou la souffrance avaient le pouvoir de les consoler du pourrissement inéluctable de leur prison de chair. Il tira le pistolet, le brandit au-dessus de sa tête, déverrouilla le cran de sûreté et piqua le canon à la verticale au-dessus de son cœur. Le choc du métal sur ses côtes lui arracha un gémissement. Sa sueur l'enveloppait tout entier comme une compresse moite, comme un liquide amniotique. La mort n'était rien d'autre qu'un retour dans un ventre, dans un bain primordial où la gravité n'existait pas, où le corps flottait avec la légèreté d'un pur esprit. Pressez la détente maintenant, et il cesserait instantanément d'être un orphelin, un boiteux, un donneur. Il ne souffrirait plus d'états disséminés dans ses cellules. Il se dissoudrait dans le silence infini et miséricordieux des abysses. Il resta un long moment dans cette position, le doigt recroquevillé sur la détente, parfaitement immobile, indifférent aux hurlements du vent et aux gémissements de la remorque. Il n'était pas de taille à enseigner les mystères du temps à ses semblables pour la bonne et simple raison que lui-même était défini par un passé douloureux et un corps contrefait. Que la race humaine s'éteigne, quelle importance! Elle avait sauté sur toutes les occasions de faire de sa terre un enfer. Au nom des dieux, au nom des croyances, au nom des principes, au nom des territoires, au nom de toutes les supériorités guerrières, intellectuelles, religieuses ou esthétiques qu'elles s'étaient arrogées comme des devoirs ou des droits. Il avait apporté sa contribution à la ruine en exécutant Catherine. Il revit le visage de la mère reposant sur la mousse, pâle, soulagé, apaisé, comme rendu à la grâce éternelle par son coup de feu. Il enfonça légèrement la détente, perçut le grincement caractéristique des pièces métalliques rongées par la rouille. Puis quelque chose le dérangea, le sortit de sa torpeur, l'empêcha d'aller au bout de son geste, le ramena à l'instant présent, à l'obscurité glaciale de la remorque. Il eut quelques secondes d'affolement avant de prendre conscience que les couvertures et les draps gisaient à ses pieds. Au battement précipité de son cœur, se superposait un autre bruit, répété, insistant, entrecoupé d'éclats de voix. Quelqu'un frappait au haillon de la remorque. « Solman ! Solman !» La voix lui était vaguement familière, mais il ne parvenait pas à lui associer un visage. Il prit une longue inspiration pour essayer de calmer les tremblements de ses membres, enclencha le cran de sûreté, et remisa son pistolet dans la ceinture de son pantalon. Ce retour brutal à la vie l'étourdissait, comme un afflux soudain d'oxygène après une longue strangulation. Ses gestes et ses pensées étaient aussi mal assurés que s'il avait bu d'un trait un litre d'alcool de baie. « Qui est-ce ? »
« Ismaïl !
L'Albin !
Qu'est-ce que vous me voulez ? » ?»«
Khadija a été empoisonnée. » À tâtons, Solman déverrouilla le haillon et l'accompagna dans son mouvement de bascule. Le froid se rua comme un fauve à l'intérieur de la remorque et le saisit de la tête aux pieds. Il entrevit le visage d'Ismaïl engoncé dans le col fourré et relevé d'un ample manteau. Des flocons de neige se déposaient en silence sur son crâne chauve et ses épaules. Solman enfila rapidement ses bottes et sa canadienne.
« Comment c'est arrivé ?»«
Quelqu'un est venu déposer deux gâteaux à la voiture, » répondit Ismaïl.
« Qui ? Un enfant ?»
Le vieil homme haussa les épaules. Il paraissait plus ennuyé que peiné, comme si l'empoisonnement d'une jeune fille, de sa petite fille en principe, relevait de la simple anecdote dans sa hiérarchie personnelle des événements.
« Je ne sais pas, je n'ai pas vu le livreur.
Notre compagne de voiture, Mayel, m'a seulement averti que quelqu'un nous avait apporté un cadeau. Et elle, elle l'a peut-être aperçu. Je ne lui ai pas posé la question.
Pourquoi Khadija et pas vous ?»
Ismaïl secoua la tête avec un soupçon d'agacement qui creusa ses deux rides verticales au coin des arcades sourcilières.
« Je ne mange que très peu. Jamais de pâtisserie, en tout cas. »
Solman ne prit pas la peine de refermer le haillon avant d'emboîter le pas à Ismaïl. En dehors de lui, quand il y dormait, la remorque n'abritait rien qui pût intéresser les prédateurs, animaux ou humains. Ils dépassèrent une trentaine de camions d'une allure soutenue, cassant à chacun de leurs pas la croûte rigide et superficielle qui recouvrait la neige profonde et encore molle. La froidure de la nuit chassait la sueur et l'ivresse de Solman, lui rendait la cohérence de ses gestes et de ses pensées. Son flirt avec la mort, sa tentative de suicide, il fallait bien l'appeler par son nom, lui apparaissait à présent comme un mauvais rêve, un dédoublement, une parenthèse schizophrénique. En même temps qu'il l'emplissait d'une immense inquiétude, tempérée toutefois par l'étrange sérénité d'Ismaïl, l'empoisonnement de Khadija lui redonnait le goût de se battre. Cette tentative d'assassinat, il fallait bien là aussi l'appeler par son nom, portait la signature de Raïma, la seule experte en poison du peuple aquariote. Rongée par la jalousie, elle avait transgressé la frontière qui séparait la vie de la mort, comme tant d'autres avant elle. Il espéra que Glenn n'était pas mêlé de loin ou de près à cette histoire. Le garçon était venu lui rendre visite à deux reprises après leur première entrevue. La fraternité qui se nouait entre eux se révélait d'autant plus profonde, féconde, qu'elle n'était pas imposée par le sang. Pour Glenn, au moins, il devait se fermer au chant des sirènes de l'au-delà, porter sa vie jusqu'à ce que les dieux, les anges ou les démons aient décidé de l'accomplissement de son temps. La neige habillait d'une carapace claire les camions assoupis. Malgré une sensation persistante d'être épié et suivi, Solman ne discerna aucune silhouette, aucun mouvement, aucune lueur sur la piste qui filait comme une voleuse livide entre les masses sombres des montagnes.
« Nous y sommes !»
souffla Ismaïl. Plus petite que dans les souvenirs de Solman, la voiture n'avait pas fière allure avec sa tôle cabossée, écaillée, les meurtrissures qui habitaient les nids de rouille. Le chauffeur n'avait pas détaché la remorque, attachée à son crochet, au mépris de toute règle de sécurité. Bien que ténue, vacillante, la lueur qui brillait par la vitre semblait découper un rectangle aveuglant sur la nuit. Ismaïl se hissa sur le marchepied, ouvrit la porte et s'engouffra dans la voiture. Solman le suivit, pénétra dans un vestibule bordé de cloisons, puis s'avança dans le couloir central qui séparait les deux réduits minuscules abusivement appelées chambres.
La flamme d'une bougie éclairait le visage d'une vieille femme aux longs cheveux blancs et à la peau fanée, assise à la table scellée au plancher. Emmitouflée dans une robe de chambre élimée, Maïelle leva sur les deux hommes un regard où se lisait un ennui courroucé. L'intrusion des deux Albins l'avait contrainte à se séparer de son fils et de sa bru. Et si le jeune couple avait saisi l'occasion avec un empressement qui en disait long sur son besoin d'indépendance, elle n'avait toujours pas digéré cette dispersion, ni n'avait accepté de partager son intimité avec des étrangers. Cependant, puisque le donneur entrait chez elle, puisque le donneur représentait l'autorité jusqu'à ce que le peuple rappelle les anciens pères et mères, elle s'efforça de faire bonne figure, poussant le zèle jusqu'à éclairer sa face éteinte d'une ébauche de sourire. Les rideaux, grands ouverts, dévoilaient l'intérieur des deux chambres qui se regardaient par-dessus la table. L'une, celle de gauche, la plus spacieuse, se meublait d'un grand lit recouvert de 4 ou 5 couvertures. L'autre, de 2 couchettes étroites et superposées, reliées l'une à l'autre par une échelle rivée au montant. Solman supposa que Maïelle s'était réservé le grand lit pendant que son fils et sa bru occupaient les couchettes, rendant un peu plus compliqué, un peu plus acrobatique, le rapprochement entre les jeunes époux et consolidant ainsi sa position de reine de la voiture. Un poêle à gaz ronflait au bout du couloir et diffusait une chaleur probablement 2 ou 3 fois supérieure à celle autorisée par les consignes. Khadija reposait sur la couchette du bas, allongée sur le drap, les yeux clos, vêtue de la robe de laine que, sur l'ordre de Solman, lui avait confectionné un tisserand. La pâleur de son visage contrastait de manière presque insoutenable avec la noirceur de sa chevelure, répandue autour de sa tête et sur l'oreiller comme un soleil nocturne. Le relâchement de ses traits épurait sa beauté, lui donnait l'allure d'une fée des légendes dormantes. Est-ce qu'elle est... Solman ne put aller au bout de sa question. Il se rendait compte, devant son corps inerte, que la disparition de la jeune femme représenterait une perte incommensurable, irréparable. La porte se fermerait définitivement sur un monde à peine entrevu et si riche de promesses. « Elle survit, » dit Ismaïl. « Elle est entrée dans une sorte de catalepsie pour lutter contre le poison. »
Catalepsie?
Elle a ralenti son métabolisme, ses fonctions vitales, pour se consacrer au nettoyage de sa physiologie.
Elle a le don de faire ça?
Ismaïl se laissa choir sur un tabouret et s'absorba pendant quelques secondes dans la contemplation de la flamme dansante de la bougie. La voiture se trémoussait sous les assauts du vent. À l'autre extrémité du couloir, dans le coin cuisine, les ustensiles pendus au crochet s'entrechoquaient dans une aubade de tintements feutrés. Un don chez les uns peut s'appeler connaissance chez les autres, dit le vieil homme d'une voix hésitante. Et cette connaissance, elle la tient d'où? Du peuple albin? Ismaïl lança un regard de biais à Maïelle, qui ne perdait pas une miette de leur conversation en dépit de son air boudeur. Visiblement, il ne tenait pas à s'exprimer devant elle.
« Nous en reparlerons plus tard, » ajouta rapidement Solman.
« Est-ce qu'il reste du gâteau qui vous a été offert ?»
Ismaïl se leva, se rendit dans le coin cuisine et en revint avec une assiette métallique qu'il posa sur la table.
Le gâteau était en réalité une de ces gaufres que les aquariotes confectionnaient avec de la farine de blé, des œufs, du lait, du miel, et qu'ils faisaient frire dans des récipients métalliques appropriés. Celle-ci se présentait sous la forme grossière d'un cœur alvéolé, saupoudré d'une fine couche de sucre de fruits troqué par des peuples de l'Europe de l'Est.
Solman souleva l'assiette à hauteur de son nez, huma une première odeur de graisse froide, une deuxième de sucre, une troisième de fleurs de rose, un parfum que certains rajoutaient pour relever le goût, puis une quatrième, plus âpre, mais indécelable au premier abord. Il n'eut besoin que d'une poignée de secondes pour l'identifier.
la même en plus diluée que celle qui s'échappait de la fiole personnelle de Raïma. Le suc des feuilles grimpantes qui rongeaient les carcasses des engins militaires à l'abandon. Un poison plus violent que l'ultracyanure des anguilles ou le venin des sauterelles. Plus corrosif que le plus puissant des acides. Une saloperie qui foudroyait instantanément et transformait les cadavres en éponges sèches. Il jeta un coup d'œil stupéfait à Khadija. Elle s'obstinait à vivre après avoir ingéré la gaufre entière, alors que la première bouchée aurait suffi à tuer un bœuf. « Khadija est une enfant, » murmura Ismaïl. « Impossible de la raisonner. Elle se jette avec frénésie sur tout ce qui est nouveau. Si elle m'avait écouté, elle n'aurait pas touché cette saleté. Comment elle aurait pu savoir que la gaufre était empoisonnée ?» intervint Maïel. Ismaïl la fixa sans aménité, les yeux plissés, les sourcils froncés, comme s'il l'évaluait. Elle échappa à la pression intense de son regard en se réfugiant dans la contemplation forcenée du plancher. La lumière tremblotante de la bougie dorait ses cheveux blancs et révélait par endroits les plaques sombres qui striaient la peau de son crâne. « Toute nourriture est un poison potentiel, comme toute créature ici-bas n'est qu'un mort en sursis. » « On a tous besoin de manger, » objecta Solman. « Disons que de tout temps, l'homme a lié sa survie à l'énergie fournie par la nourriture. Tu creuseras la terre, tu fabriqueras ton pain, tu feras tout à la sueur de ton front, enfin, quelque chose d'approchant. C'est écrit dans la Bible, l'un des livres des anciennes religions, le livre, selon certains. Vous proposez une autre solution ? » Ismaïl délaissa enfin la vieille femme courbée par le poids de son regard pour dévisager Solman. « Moi, non. Vois mon corps. Il subit le même déclin que les autres. Je ne m'en plains pas, j'ai accepté de vieillir. » Il désigna Khadija d'un mouvement de menton sans quitter Solman des yeux. « Elle, peut-être. Je ne la connais pas assez pour... Vous ne connaissez pas votre petite fille ?» Un sourire désabusé flotta sur les lèvres brunes d'Ismaïl. Le temps m'a manqué pour apprendre à la connaître. Le ciel envoie parfois des présents énigmatiques. Solman s'aperçut que Maïel les écoutait avec une attention sournoise, mais soutenue, et estima une nouvelle fois que le moment était malvenu d'approfondir cette conversation. « Avez-vous vu la personne qui a déposé les gaufres ? » demanda-t-il à la vieille femme. « Non. » Quelqu'un a frappé et crié « Un présent pour les Albins !» Je suis sorti, l'assiette était posée sur le marchepied, mais j'ai vu personne autour de la voiture. La voix, c'était celle d'un homme ? D'une femme ? Un homme, je crois. Je n'en suis pas sûr. Il ne décela pas la musique du mensonge dans sa voix, ni dans ses pensées. D'elle, il n'y avait rien d'autre à tirer qu'une rancœur tenace contre les deux étrangers qu'il avait séparés de son fils. Il reporta son attention sur Khadija. Un silence total émanait de son esprit et de son corps. Le silence morne des batailles perdues. Il se mordit la lèvre inférieure jusqu'au sang. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ?» Sa voix rebondit sur les cloisons comme un torrent furieux et agrandit d'effroi les yeux de Maïel. Ismaïl haussa les épaules. « Attendre ?